Donc, cet après-midi, nous allons continuer à parler de l'autorité. Donc, nous avons vu que cette autorité nous a été donnée, déléguée en Jésus-Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. Nous n'agissons pas indépendamment de la tête. Amen. Et nous devons savoir que cette autorité spirituelle, nous sommes dans l'esprit. Amen. Et que dans l'esprit, nous sommes loin au-dessus de l'ennemi, de l'attaque, du problème. Ça nous donne cette... Quel est le mot que je recherche? Cette perspective, la bonne perspective. Parce que c'est vrai, si par exemple, tout d'un coup, on entend une mauvaise nouvelle, on dit le cancer, on entend le mot cancer, tout d'un coup, on commence à voir cet ennemi comme quelque chose de puissant, même plus puissant que le nom de Jésus. Mais quand on prend notre perspective spirituelle en Christ, loin au-dessus, et qu'on se rend compte que cet ennemi a déjà été vaincu, ça nous donne la bonne perspective, la bonne position spirituelle, amen, d'exercer notre autorité contre cet ennemi, contre cette situation. Amen. Alléluia. C'est quelque chose d'important. Et on a vu, si on est dans l'esprit, ça veut dire qu'on est dans l'obéissance et dans la soumission. Et ça veut dire qu'on marche en unissant avec Dieu pour faire sa volonté. On a un coach en nous qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a un coach en nous et tout au long de la journée et tout le temps, ce coach est là pour nous aider, nous diriger, nous montrer exactement. Alléluia. Et nous sommes tous en processus de croissance. On est tous, on va pas tous savoir du jour au lendemain, mais on marche avec Dieu. On lui permet de nous enseigner, de nous montrer, de nous avertir, nous diriger. Amen. Alléluia. Et cette autorité, on doit l'exercer par la foi. On doit être dans l'esprit, mais on l'exerce par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire d'exercer l'autorité par la foi? La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est vraiment simple. La foi, dans son premier sens, c'est faire confiance. La foi, c'est faire confiance en un Dieu que l'on ne peut pas voir ni toucher. Amen. La foi, cette conviction, cette réalisation, ce moment eureka, cette réalisation de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou percevoir au travers des cinq sens, mais on est persuadé, on est convaincu que c'est vrai. Et pour pouvoir exercer notre autorité, on doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que quand vous faites face à un problème, face à un démon, face à une maladie, vous exercez votre autorité par la foi. C'est ce que Jésus nous a dit. Vous vous rappelez dans Marc 11, dans le verset, c'était un passage qui est en fin de compte super intéressant et à partir duquel on peut apprendre tellement de choses. Regardons la situation. Jésus est avec les disciples. Ils vont de Béthanie à Jérusalem, puis le lendemain de Jérusalem, de retour en Béthanie. Et alors que Jésus va vers Jérusalem, il a faim. Il voit un figuier de loin. Il s'en approche. Et apparemment, ce figuier avait des feuilles. Certains disent que ce genre de figuier en Israël, s'il y a des feuilles, il est supposé y avoir des fruits. Apparemment, vous connaissez l'histoire, Jésus s'est approché du figuier pour voir. Il y avait des feuilles. Il s'attendait à voir des fruits. Il n'y en avait pas. Et qu'est-ce que la Bible nous dit que dans Marc 11, verset 20, il a parlé, il a même répondu au figuier. Ça veut dire que le figuier lui disait quelque chose. Il a répondu au figuier, il lui a commandé d'être sec. Amen, et tu ne porteras plus jamais de fruits. Entre guillemets, c'était un acte symbolique du système religieux de l'époque, qui avait des feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. Bref. Et alors là, Ils s'en vont, personne n'a rien dit. Jésus a parlé au figuier. Apparemment, personne n'a rien remarqué parce qu'ils sont tous partis. Ils n'ont rien dit. La Bible nous dit que le lendemain, et attendez, je vais rajouter un petit détail. Dans Matthieu 21, dans le verset 19, la même histoire, l'auteur Matthieu nous révèle que Jésus a parlé au figuier. Il dit que le figuier sécha instantanément. Ah mais je sais pas de votre part, mais moi si je vois quelqu'un qui parle un figuier et que immédiatement il est sec, j'aurais dit quelque chose. Mais là apparemment, on voit selon Marc chapitre 11, personne n'a rien dit. Ils sont partis vers Jérusalem. Vous vous rappelez, Jésus est allé dans le temple, il a fait du balayage. La maison de mon père se rappelait une maison de la prière pour les nations. Puis il est reparti vers Béthanie. Et là, de retour, Pierre qui voit le figuier. Et là, ils disent, Seigneur, Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit est complètement sec depuis les racines. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, le jour d'avant, a parlé au figuier et depuis les racines, il y a quelque chose qui s'est passé qui apparemment ne pouvait pas se voir à l'œil nu parce que personne n'a rien dit. Et en 24 heures, depuis les racines, il s'est passé quelque chose à l'intérieur où le lendemain, Pierre a vu l'évidence de ce qui ne pouvait pas se voir à l'œil nu quand Jésus a parlé. Et là, Pierre a dit, « Waouh, regarde Jésus, le figuier que tu as maudit hier est complètement sec. » Et qu'est-ce que Jésus a dit? Et je pourrais presque m'imaginer le ton de sa voix. « Mais alors les gars, ayez foi en Dieu ou ayez la foi de Dieu. » Il n'a pas dit, « Dominus Patre, ayez la foi de Dieu. » Non, Jésus était un charpentier avec des muscles. Il a dit, « Mais alors les gars, mais ayez foi en Dieu quand même. » Et là, Jésus leur a enseigné le principe de la foi. Il leur a dit, « Quiconque, est-ce que j'ai des quiconques ici ?» Levez la main si vous êtes un quiconque. J'ai dit quiconque, ça veut dire nous tous, nous toutes. Quiconque parle à la montagne, lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Voilà le principe d'exercer notre autorité par la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, 17 qu'on doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Mais il y a un principe que l'on doit aussi savoir, c'est que dès que l'on s'adresse au problème, que ce soit un démon, une maladie ou quoi que ce soit, rappelez-vous le principe. Au nom, parce que l'autorité s'exerce dans le nom de Mohamed. Certainement pas. L'autorité, elle s'exerce dans le nom de Pasteur Joe. L'autorité s'exerce dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est votre badge d'autorité. Rappelez-vous, de la même manière que le camionneur, quand il voit le policier avec un badge, il sait immédiatement qu'il doit s'arrêter. Et là, on voit que quand on exerce l'autorité, on parle pas à Dieu au sujet du problème. Et ça, c'est la majorité des cas. Les gens s'adressent à Dieu au sujet du problème. Ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Il n'a pas dit « quiconque parle au Père ». Au sujet de la montagne, afin que le Père puisse l'ôter et la jeter dans la mer. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit quiconque parle, s'adresse directement à la montagne, au problème, à la maladie, au démon, lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point. point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, alors là, il le verra s'accomplir. Et on voit entre... Vous savez, quand vous étudiez la Bible, surtout les évangiles, il est très important souvent de lire la même histoire au travers de différents évangiles. On voit là que dans Matthieu 21 et Marc 11, il y a un parallèle et on peut s'apercevoir d'une réalité. Que dès que Jésus a parlé au figuier, depuis les racines qui ne peuvent pas se voir à l'œil nu, il se faisait quelque chose. Et à l'extérieur, on voit Jésus qui parle à un figuier, à l'extérieur, personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, personne n'a rien remarqué. Mais là, sous la terre, depuis les racines, il se passait quelque chose. Il y avait quelque chose qui était entamé, un processus qui a commencé. Tout comme, par exemple, si vous allez dans votre jardin, et vous, si vous avez peut-être des roses, un rosier, et vous coupez les roses, elles ont l'air belles, elles sentent bon, vous les mettez dans un vase, wow, elles sont tellement belles. Qu'est-ce qui va se passer ? Immédiatement, il y a un processus qui s'entame, qui ne peut pas se voir à l'œil nu. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Quelques jours plus tard, les fleurs vont... Quand est-ce que ça a commencé ? Au moment où vous avez coupé. Quand vous exercez autorité, c'est comme si vous aviez des ciseaux spirituels. Pah ! Vous les coupez depuis la racine. Et il y a un processus qui commence qui ne peut pas se voir à l'œil nu. Et c'est là où on a besoin de la foi. Que quand on parle à la montagne, on lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer. On ne doute pas dans notre cœur, mais on croit qu'au nom de Jésus, dès qu'on parle, il y a des choses qui bougent, qui ne se voient pas, mais qui, tôt ou tard, vont devenir évidentes. Hashakaramana hashite. Je me rappelle comment le Seigneur m'a enseigné cette leçon. J'étais en Inde. Je faisais une campagne évangélique et on m'a amené devant une femme. Vous savez, en Inde, si vous connaissez quoi que ce soit de l'Inde, il y a des millions d'idoles. Ils adorent, ils ont des statues pour tous les dieux, les serpents, les rats, les vaches, bref, les singes. Et cette femme avait adoré le dieu du serpent. Elle allait au temple, elle offrait des offrandes. Elle s'humiliait devant le dieu du serpent. Il y a un temple qui est dédié au dieu du serpent. Et parce qu'elle avait adoré, elle s'était prosternée, elle avait adoré ce dieu, elle était devenue comme ceux qu'elle a adorés. C'est là. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Si on contemple Dieu, on adore Dieu, on loue Dieu, on devient comme le Dieu qu'on regarde continuellement. Et cette femme était devenue comme un serpent. À quoi ça ressemblait ? Imaginez la scène. Je suis toute jeune. Je suis toujours toute jeune. Hein. Mais j'étais un peu plus jeune. Cette femme était là, mais devant moi, son corps se tortillait. Sa tête tournait sur place. Sa langue sortait de sa bouche et de sa gorge, on entendait un hissement. Et on me l'amenait devant. Et bien sûr, je suis jeune. Je sais que j'ai autorité. Je le savais. Je la regarde. Des fois, on prend cette voix-là qu'on dit, c'est autre. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Il n'y a rien qui se passe, ça devient pire. Et vous savez, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On commence à élever la voix. J'ai dit, au nom de Jésus, sors de cette femme. Ça devient pire, un pire. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris par les épaules, je l'ai secoué, je l'ai remise par terre, j'ai tout essayé. Et le problème, c'est que tout d'un coup, je commence à chasser avec le nom de Jésus, et Jésus, et Jésus, comme si répéter le nom de Jésus, ça allait impressionner les démons. Au contraire, vous vous rappelez ? J'ai parlé ce matin d'être dans la réaction au lieu d'être dans la foi. Tout d'un coup, je m'entends en train de répéter le nom de Jésus. Commande et vas-y, je la prends, je la secoue. Et j'entends le Saint-Esprit à l'intérieur qui dit, mais combien de fois vas-tu chasser ce démon? J'ai un petit discours à l'intérieur. Je dis, mais quand je la vois libre. Mais vous avez des fois le Saint-Esprit, il sait comment nous donner des petites fessées spirituelles. Il me dit, tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois? Tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le sais. Ne sais-tu pas qu'un mot en mon nom est suffisant? Oui, Seigneur. Et tout d'un coup, j'ai compris. J'ai regardé cette femme, tout d'un coup, il y avait cette réalisation. Un mot de la... Quand Dieu nous parle, il y a cette réalisation, il y a cette prise de conscience, il y a « je sais que je sais que je sais que je sais ». Je prends cette femme, je la regarde, je dis « regarde-moi dans les yeux ». Vous savez qu'on peut voir des démons au travers des yeux. Une personne qui a des démons ne va pas vouloir vous regarder dans les yeux. Les yeux font comme ça. Ou écoutez-moi bien, une maladie qui va un peu partout dans le corps. Une fois c'est dans la tête, après ça va dans les pieds, après ça va quelque part d'autre. C'est souvent le signe d'un démon. C'était gratuit, je ne vais pas vous faire payer. Je prends cette femme, tout d'un coup j'ai cette réalisation. Parce que j'ai entendu le Saint-Esprit. Il me dit, un mot, ne sais-tu pas qu'un mot en mon nom est suffisant? Il me dit, tu dois marcher par la foi et non par la vue. J'ai pris cette femme. Je l'ai mis, j'ai dû regarder, je me rappelle, j'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Et ma voix était ferme, mais je ne criais pas. J'ai dit, je vais te le dire une fois de plus. Écoute-moi bien. Au nom de Jésus, tu sors maintenant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé là. Et je suis allée vers l'autre personne, donc j'ai dit, je vais aller, parce que tout en moi, je voulais voir la regarder. Et le Seigneur m'a dit, non, va prier pour les autres. J'étais, il y avait toute une ligne, des centaines de personnes qui attendaient le ministère. Donc j'étais prier pour les autres personnes. Mais tout en moi, je rappelle, tout en moi voulait. Je voulais voir qu'est-ce qui se passe. Oh, ça me grattait. Je voulais regarder, est-ce qu'elle est libre? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se... Mais le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Il m'a dit, écoute-moi, il dit, reste dans la voie, dans la foi, ne retourne pas dans la vue. Il dit, le moment où tu cèdes à la tentation de voir, de regarder, d'essayer, il dit, tu sors de la foi, tu rentres dans les cinq sens. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là, donc j'ai obéi. Et à la fin, il y avait tellement de personnes qui avaient besoin de prière que j'ai oublié. Le lendemain, je suis sur l'estrade et je suis entrée pendant la louange et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui attire mon attention. Je regarde cette femme devant, au premier rang, en train de louer le Seigneur. Il y avait comme une lumière où elle était complètement libre. Et j'ai appris cette leçon que quand on exerce l'autorité, on commande aux démons de sortir, on commande à la maladie, voyez, et qu'on travaille en l'unisson avec le Saint-Esprit. On sait que quand on commande à la maladie de sortir, elle doit obéir. Quand on reste dans cette conviction, dans cette foi. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de marcher avec le Saint-Esprit. Si vous faites les choses de votre propre manière, voyez, comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas cette foi, vous n'avez pas cette certitude, vous n'avez pas cette conviction. Amen. Cette femme était complètement libre. Et donc, on exerce l'autorité par la foi. On parle au problème, on parle à la maladie. Et combien de fois, quand j'enseigne aux gens comment guérir les malades en exerçant l'autorité, combien de fois j'enseigne ces principes et je vois les gens, quand c'est le moment de guérir les malades, ils rentrent dans cette, comment je pourrais dire, cette habitude où ils commencent, ils imposent les mains sur la personne. « Oh Père, s'il te plaît, guéris cette personne au nom de Jésus. » Et je dois dire « Ah, arrête !» Non, c'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. On ne parle pas au Père au sujet de la montagne, on parle à la montagne et on le fait par la foi. Que quand on commande, on doit croire que ça se fait. Et des fois, on voit la réalisation instantanément. On aime ça. On aime quand tout d'un coup, la guérison est immédiate, instantanée. Et je dis alléluia. Mais il se passe des moments, des fois, où on ne voit pas la guérison instantanée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est fait? Rappelez-vous le figuier qui a été desséché depuis les racines. Et quand on est disposé à marcher par la foi en se disant « j'ai parlé à la maladie, je lui ai commandé d'être guéri au nom de Jésus », il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, je ne peux pas le voir. Et peut-être que la personne commence à ressentir un soulagement et on dit « alléluia ». Mais on persiste et on dit « ok, on y va, continue ». Parce qu'on sait que si on croit et qu'on ne doute pas et qu'on reste dans la foi, nous verrons, tout comme Jésus a vu le figuier complètement sec depuis les racines, vous comprenez? Je me rappelle, et je sais que je parlais avec Pasteur Johanna, où elle disait que très souvent, quand elle prie pour les malades, quand elle exerce autorité contre la maladie, que très souvent, il voit les guérisons se passer dans les heures, les jours qui suivent. Alléluia! Mais je crois et je suis persuadée que vous et moi, nous devons, comment on dit, il y a un mot en anglais, contend. On doit se... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la traduction de ce mot contend? Non, ce n'est pas contenter, ça veut dire qu'on presse, on va pour obtenir quelque chose. Persister. On persiste, on va après, on se bat pour, dans le sens où on n'est pas satisfait avec ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. On veut plus, on veut aller de l'avant, de foi en foi, de gloire en gloire. Parce qu'on veut, vraiment arriver comme le ministère de Jésus, où il voyait des miracles, des guérisons constamment. Amen. Tout le temps, instantané. J'ai vu des miracles instantanés, mais ces guérisons ne sont pas instantanées. Je ne recule pas en disant « ben, il ne s'est rien passé ». Non, je suis dans cette conviction que j'ai commandé au nom de Jésus et il se passe quelque chose à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il me rappelle un exemple. Quand on parle de la foi, peut-être que je vais en parler demain à l'église. La force de l'incrédulité. Mais aujourd'hui, alors qu'on parle de l'autorité, on exerce notre autorité par la foi. Et des fois, comme j'ai dit, on voit des guérisons instantanées, on voit des résultats instantanés. Mais si ce n'est pas instantané, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, ça veut dire que peut-être les racines du problème. Vous voyez, quand moi j'étais atteinte du cancer des os, le Saint-Esprit m'a réveillée à 1h du matin, de 2-3 jours d'affilée. Et à mon insu, je savais, j'avais des douleurs dans mon corps, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, ça va disparaître, je continue, je persiste et ça va disparaître. Mais la douleur était aiguë et je me rappelle, mon mari m'a dit, Audrey, non, tu dois prendre un rendez-vous chez le docteur, fais-moi plaisir. Donc j'ai obéi, je me suis soumise à mon mari, j'ai pris un rendez-vous chez le docteur, mais 2 soirs d'affilée, le Saint-Esprit m'a réveillée. Et le 3e soir, je sors du lit, je vais dans mon salon et je prie en langue pendant je ne sais pas combien de temps. Et tout d'un coup, j'entends, il y a du cancer dans ton corps. Cancer n'était pas sur mon radar. J'étais jeune, j'avais 36 ans. Je ne pensais pas au cancer, ce n'était pas quelque chose que j'attendais. Mais immédiatement, après qu'il m'ait dit, il y a le cancer dans ton corps, mais la joie du Seigneur sera ta force. Puis après, il m'a dit, ne dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes qui croient comme toi. Il m'a donné des points d'instruction, des choses à faire et pas à faire. Mais vous savez, le résultat, c'est que quand je suis arrivée ce soir-là dans mon salon, j'ai reçu ma guérison. J'ai exercé mon autorité. Amen. Et quelques jours plus tard, chez le docteur, quand la docteur m'a fait faire des IRM, elle m'a appelée avec visage, une eau grave, en me disant « Madame Mac, je suis désolée, vous avez le cancer des os. » Vous savez, dans mon salon, le Seigneur m'a dit que c'était le cancer, il ne m'avait pas dit quel genre de cancer. Et le docteur me dit « Vous avez le cancer des os, il y a une métastase. » Ce qui prouvait par ce terme que c'était du cancer. Et je la regardais avec un grand sourire parce que j'avais déjà reçu ma guérison dans mon salon toute seule, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais elle m'a envoyée chez un oncologue. Et je suis allée chez l'oncologue parce que je savais que j'étais guérie, mais mon mari ne le savait pas. Amen. Il n'avait pas il n'a pas eu cette même expérience ou conviction. Et le point que j'essaie de faire, peut-être vous demandez, mais elle va où là avec son histoire? Le point que j'essaie de faire, c'est que cet oncologue m'a fait faire des examens, IRM, scanner, scanner des os, tout un tas d'examens. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que la tumeur avait rétréci un tout petit peu. Ce qui lui a permis de me donner l'option, Madame Mac, où on commence le protocole, où on vous met sous observation. Porte numéro 1, protocole. Porte numéro 2, observation. Et moi, j'ai dit, porte numéro 2. Et la chose intéressante, c'est que ce cancer a petit à petit diminué en 9 mois et demi. À la fin des 9 mois et demi, complètement disparu. Et ça fait il y a 26 ans de cela. Le point que j'essaie de faire, c'est que j'avais reçu ma guérison ce soir même. Amen. J'avais parlé à mon corps au nom de Jésus. J'avais parlé au cancer au nom de Jésus. Mais ce cancer, qu'est-ce qui s'était passé? Le nom de Jésus a attaqué la racine du cancer et a commencé petit à petit à rétrécir cette tumeur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pourquoi ça a pris 9 mois et demi? Je ne sais pas. Peut-être parce que ma foi était là. Vous savez, souvent, Jésus a dit que ce soit fait selon ta foi. Amen. Et c'est intéressant, on va en parler, que Jésus n'allait pas au-delà de la foi des gens. Qu'est-ce que tu veux? Où est ta foi? Que ce soit fait selon ta foi. Es-tu prêt à être guéri? Veux-tu être guéri? Quelle bonne question. Un paralytique qui est là, à côté d'une piscine pendant 38 ans. Il dit, veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que tout le monde, tous ceux qui sont malades, veulent pas forcément être guéris. Et la parole, veux-tu être guéri? Avec quelque chose, avec une couche différente, ça veut dire, es-tu disposé à faire ce qui est nécessaire pour être guéri? Et cet homme est près de la piscine, on l'apporte sur un brancard tous les jours. Hop, on le met dans la piscine à la fin de la journée. On l'emmène sur le brancard, on le ramène à la maison. Cet homme, et quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Es-tu disposé à faire ce qui est nécessaire pour être guéri? Qu'est-ce que l'homme a répondu? J'ai personne pour m'amener, parce que dès qu'il y a les os qui bougent, ben, le premier tombe, et moi, non, ben, ça. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit de faire? Es-tu disposé à être guéri? Es-tu prêt à faire, à croire? Et il lui a dit, prends ton lit, mets-le sous ton bras et va, rentre à la maison, marche. Ça paraît quelque chose de banal, quelque chose qui n'est pas, prends ton lit, hop, lève-toi et marche. Mais le verset d'après dit, et c'était le jour du sabbat. Qu'est-ce que Jésus demandait à cet homme de faire? De se lever, de prendre son lit, de le mettre sous son bras et de marcher, ce qui était interdit selon la loi. Et j'aimerais préciser, ce n'était pas la loi de Dieu. Rappelez qu'en Marc 7, Jésus a dit, vous avez pris les traditions des hommes et vous en avez fait des commandements de Dieu. Vous avez ainsi annulé la parole par vos traditions que vous avez passées de génération en génération. Et là, on voit que Jésus lui a dit, es-tu disposé à croire, à avoir la foi? Et donc, on doit exercer notre autorité par la foi. Ça veut dire qu'on est convaincu, on est disposé à croire en quelque chose qui se passe dans le monde invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc, si vous parlez au cancer, vous savez que le cancer est attaqué depuis la racine et que ça passe en 2 secondes ou que ça se fasse en 9 mois, peu importe, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe en sous-plan et en arrière-plan. Et vous restez dans cette foi en sachant. Alléluia. Je me rappelle une fois, on m'avait appelé à l'hôpital pour prier pour une dame qui était sur le point de la mort. Complètement, son corps était attaché avec des tubes. Elle avait des tubes pour les reins, pour le cœur, pour le foie, pour les poumons. Bref, elle était une machine ambulante. Elle respirait, elle avait un respiratoire et elle était presque morte. Et sa fille m'a demandé d'aller à l'hôpital pour être sûre que sa maman accepte Jésus. Donc mon mari et moi, on est allés à l'hôpital, on arrive là, elle avait été l'image de la mort. Et bien sûr, je suis allée, j'ai chuchoté à son oreille, lui demandant si elle connaissait Jésus, si elle voulait recevoir Jésus. Et je lui dis, si tu veux recevoir Jésus, presse ma main un petit peu. Donc, long story, on va cette histoire, je la raccourcis, elle a accepté Jésus. Et tout d'un coup, je m'entends dire, c'est comme si le Saint-Esprit m'a relevé à l'intérieur. J'avais pas l'intention, a priori, de prier pour sa guérison. Sa fille m'avait envoyé pour qu'elle reçoive le salut. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose en moi, comme l'Esprit de Dieu en moi qui a pris le dessus. Je me suis entendue parler à son corps. J'ai dit, foi, je te commande de fonctionner. Poumon, tu vas fonctionner. Cœur, tu vas battre. Et j'ai commencé à parler à son corps. Ça vous est déjà arrivé de commander, de parler et de l'impression d'être à côté, de vous écouter en disant, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Et alors j'ai commandé à cette personne, j'ai parlé à son cœur, à ses poumons, à son foie, bref. Et à la fin, je regarde cette personne, rien n'avait changé. C'était la même, elle avait l'air d'une femme morte, presque comme avant. Oh, rien n'avait changé à première vue. Je me rappelle, je regarde mon mari et je lui fais, qu'est-ce que ça voulait dire? On ne dit rien. On voit rien peut-être, mais on va rien dire. Donc mon mari et moi, on est partis de l'hôpital sans rien dire. 3 jours plus tard, on reçoit un coup de fil de sa fille qui me dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec ma maman? Je me suis dit, oh là là, presque je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ma maman, elle est assise dans le lit d'hôpital en train de manger le déjeuner. Les docteurs lui ont fait faire tout un tas de tests. Tous ses organes ont recommencé à fonctionner. Ils comprennent rien. Ils lui ont fait faire tout un tas de tests. Il y a tout qui fonctionne. Ils comprennent pas. Et ils vont refaire faire des tests. Et puis, ils vont la renvoyer à la maison. Si mon mari et moi, on avait regardé ce qu'on voyait en disant, ça n'a pas marché. On aurait annulé ce que la puissance de Dieu, rappelez-vous, on exerce autorité et en exerçant notre autorité, on relâche la puissance. Amen. Si on avait parlé selon ce que l'on voyait, on aurait annulé ce qui avait commencé en sous-sol, entre guillemets. L'âme, c'est ça la foi. Et la Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 4:13, on croit, cependant on parle. On commande notre parole. C'est avec notre bouche qu'on exerce autorité. Mais c'est aussi notre bouche qui peut nous jouer des tours. Et de là, j'aimerais en venir à quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que des fois, notre autorité ne fonctionne pas? Allez avec moi, si vous avez votre Bible, dans Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques 1, 26, vous y êtes? Tout le monde va bien? Levez-vous juste une petite seconde, alors que je tourne les pages de ma Bible. Levez-vous, tournez, faites 3 tours sur place. Voilà, j'en vois qui font de la gymnastique. Tapez sur l'épaule de votre voisin. Sautez. 3 petits. Hop, hop, voilà. Levez les mains. Touchez vos doigts de pied. Ha ha. pour certains, c'est un exercice de foi. Vous pouvez vous asseoir. Avez-vous pu tourner les pages sur Jacques 1, 26? Amen. Je vais le lire. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors, vous savez, une fois, je me rappelle, j'étais en Éthiopie et j'ai lu ce verset. Je pourrais vous dire exactement où j'étais, à quel moment, et j'ai lu ce verset et ce verset est sorti de la page. Vous voyez de quoi je parle. Et quand je lis, il y a deux mots qui ont été éclairés par le Saint-Esprit. Le mot « embride » et le mot « veine ». Ce qui m'a amené à creuser un petit peu plus loin et à voir pourquoi, Saint-Esprit, tu éclaires ces paroles. Et il m'a montré que la parole « embride », ça veut dire « guider », »,« conduire », tenir sous contrôle, restreindre, comme un cheval en bride. Vous tenez ce cheval en bride pour le contrôler, le guider à droite et à gauche, lui empêcher d'aller de l'avant ou de l'arrêter. Amen. En bride, ça veut dire qu'on tient, on guide et on tient sous contrôle. Amen. Vous avez la bonne idée. Et la parole vaine. La parole vaine veut aussi dire sans succès, sans résultat, dépourvu de force et de puissance. Vous prenez ces définitions et vous les mettez dans ce verset. Qu'est-ce que Jacques nous révèle? Que la religion de certains est sans puissance, sans force, sans résultat et sans succès. Pourquoi? Parce que la langue de certains n'est pas contrôlée ou restreinte ou dirigée ou arrêtée, tenue sous contrôle. De quoi est-ce que je veux parler? Quand on voit Jésus qui nous a enseigné sur l'autorité du croyant par la foi, rappelez, Marc 11, 23, si quiconque parle à la montagne, lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur. Écoutez, mais qui croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. La plupart d'entre nous ont dit oui, je parle à la montagne, je crois que ce que je dis se fera. C'est bien. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand vous parlez, ce qui sort de votre bouche, est-ce que vous croyez véritablement ce que vous dites? Ou ce que vous dites va se faire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah, tu sais, Mathieu, je vais te donner 500 euros pour te bénir. Je te promets, je te donnerai 500. Dès que j'ai mon salaire, je vais te donner. Dieu me l'a mis sur le cœur, je te donne 500 euros. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Votre frigidaire tombe en panne. Vous avez votre salaire, mais tout d'un coup, les 500 euros, là. Oh. Qu'est-ce que je vais en faire? Et dites, bah, je ne peux pas les donner à Mathieu parce que j'en ai besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand vous avez dit « Mathieu, je te donne les 500 euros », votre cœur, vous l'avez trompé parce que vous n'avez pas réellement cru que ce que vous alliez dire allait se faire. C'est silencieux dans cette église catholique. Dominus Patre. Mais c'est vrai. On vient de voir que Jésus nous a dit que si on croit dans notre cœur que ce qui sort de notre bouche se fera, on le verra s'accomplir. Et on peut avoir ce genre de on peut dire oui, d'accord, je crois, je parle à la maladie, je parle au cancer, je parle aux démons et je crois que ce que je dis va m'obéir. Mais au cours de la journée, au cours de la semaine, il sort plein de choses de notre bouche Ushakaraya. Et il sort des choses de notre bouche. Et est-ce qu'on croit toujours que ce que l'on dit se fera? Nous sommes dans un monde où le diable nous a persuadés que nos paroles, on peut les prendre à la légère. On fait des promesses qu'on brise, on exagère, on ment. Or, ce n'est qu'un petit mensonge tout petit, innocent. Et au cours de la journée, on ment, on exagère, on fait des promesses que l'on brise. Vous avez entendu parler, on dit « Ah, je te donne ma parole ». Aujourd'hui, la parole ne vaut rien du tout. À l'époque, vous rappelez, il n'y avait pas besoin de signer de contrat. On donnait sa parole. Amen. Notre parole était un contrat, un engagement, parce qu'on savait que notre parole valait quelque chose. Mais aujourd'hui, le diable nous a convaincus que nos paroles sont non essentielles. On peut parler, on peut exagérer, et c'est malheureux à dire, mais on a ce terme évangélastique, où un évangéliste va faire une campagne évangélique et il y a peut-être 3 pouilleux et 2 tondus qui sont là, mais il revient, il y avait 1 000 personnes qui sont venues au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était évangélastique. C'est pas mal à dire pour un homme de Dieu, n'est-ce pas? On exagère, on ment, on fait des promesses qu'on brise. Pourquoi est-ce que le diable nous a convaincus que nos paroles sont non essentielles? Serait-il peut-être parce que c'est avec nos paroles que nous exerçons autorité? Voyez, Dieu, la Bible dit que tout le monde est soutenu, Hébreux chapitre 1, verset 3, que le monde entier, l'univers est soutenu par la parole de sa puissance. La parole de Dieu est puissance. Et tout le monde entier, l'univers est soutenu par une parole de Dieu parce que sa parole a toute intégrité. Écoutez ces versets. La parole de Dieu est puissante. Quand Jésus a parlé au figuier, le figuier a séché parce que sa parole avait de la puissance, parce que sa parole avait de l'intégrité. Écoutez ces paroles. Luc 4, 32, il dit que la parole de Jésus était avec autorité. Hébreux 1, 3, Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Pourquoi? Parce que Nombre 23, verset 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir ou pour changer. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En d'autres mots, la Bible nous dit que la parole de Dieu a toute puissance parce que quand Dieu dit, il le fait. Quand Dieu parle, c'est exécuté. Dans Psaume 89, verset 34, Dieu a dit « Mon alliance, je ne violerai point, ni changerai la parole qui est sortie de ma bouche. » Psaume 138, verset 2, il dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. On voit que Dieu voit la parole avec tellement d'intégrité que sa parole, quand Dieu parle, il le fait. Dieu ne change jamais sa parole. Dieu ne change jamais ce qu'il a dit. Quand il le fait, il l'exécute. Quand il le dit, il l'accomplit. Il ne change jamais ce qui est sorti de sa bouche. Il fait des promesses, il ne les brise pas. Et sa parole a toute autorité parce que sa parole a toute intégrité. Les deux sont main à main. Au moment où Dieu perd son intégrité, sa parole perd son autorité et sa puissance. Serait-il possible que vous et moi, notre parole perde son autorité et sa puissance parce que quelque part en cours de route, notre parole a perdu son intégrité? J'aimerais vous montrer un exemple dans la Bible, dans Josué. Vous rappelez, je crois que c'est Josué chapitre 9, où Josué a vaincu Jéricho. Ils sont maintenant prêts à aller prendre possession de la terre de Canaan. Et ils arrivent là et tout d'un coup, il y a un peuple, les Gébéonites, qui viennent vers Josué en leur disant, on a entendu parler de ton Dieu et on voudrait faire une alliance avec Israël parce que ton Dieu est puissant. Et alors, immédiatement, Josué répond, ah, mais ne sais-tu pas que Dieu nous a commandé d'exécuter et d'exterminer toutes les nations voisines? Et les Gébéonites ont répondu, ah, mais non, non, nous venons de très loin. Nous avons entendu la renommée de ton Dieu. Regarde nos habits. Ce sont comme des haillons. Ben, regarde nos chaussures. On a des trous dans les chaussures. Ah, regarde notre pain. On est parti avec du pain qui était chaud, sorti du four. Et maintenant, il est en miettes, il est moisi. Ah, regarde nos outres d'eau. Elles sont craquelées, elles sont toutes vieilles. Nous sommes venus de très loin. Et la Bible dit que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? Il a donné sa parole. En donnant sa parole, il a lié une alliance avec le peuple de Gébéon. Et plus tard, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Mais c'est intéressant. Josué a donné sa parole à un peuple qu'il ne le détruirait pas et qu'il ne serait pas exterminé, mais qu'il serait... Pourquoi ? Parce qu'il a cru au mensonge. Il a regardé les évidences, il n'a pas jugé, il n'est pas allé vers Dieu pour lui demander son avis. Et quand on va et on va de l'avant, et on voit que maintenant Saoul est le roi d'Israël, amen, et plus tard David devient le roi d'Israël, et la Bible nous dit dans 2 Samuel qu'il y a eu tout d'un coup une famine sur la terre d'Israël. Et le roi David, lui, il était allé vers Dieu en disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une famine? En d'autres mots, il n'y a plus d'autorité en Israël, nous avons perdu notre autorité. Parce qu'avec l'autorité, ils étaient supposés prospérer, multiplier, assujettir, mais là, ils étaient assujettis par la pauvreté. David est allé vers Dieu en disant, Dieu, mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'avons-nous pas d'autorité? Pourquoi sommes-nous sous la famine? Et vous savez qu'est-ce que Dieu a répondu? À cause de la maison sanglante de Saoul. Pourquoi? Parce qu'il a tué la maison de Gabaon. En d'autres mots, qu'est-ce que Saoul, dans son zèle, qui a essayé un peu de se vanter devant Dieu en disant, ouais, j'ai désobéi, là, j'ai pas fait ce que tu m'as dit, mais attends, je vais rattraper. Maintenant, dans son zèle, il a tué tous les Gabaonites. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé la parole du peuple d'Israël au peuple de Gabaon. Et parce qu'Israël a brisé une promesse, ils ont perdu leur autorité. Oh. Est-ce que vous voyez? Le diable nous a convaincus qu'on peut parler à la légère, exagérer, briser nos promesses. Il est... Le diable, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il sait qu'au moment où on brise notre parole, on exagère notre parole, on déforme et on brise nos promesses, on perd notre autorité. Shambarabaka shande. Vous voyez, le diable est subtil. Il a court-circuité l'autorité du peuple de Dieu en nous convainquant que nos paroles, on peut les prendre à la légère. Aucun impact. Quand en réalité, on comprend que notre parole, voyez, l'intégrité de notre parole est liée à l'autorité de notre parole. Mais bonne nouvelle, vous aimez une bonne nouvelle? Si on a perdu l'intégrité de notre parole, on peut la récupérer. Si aujourd'hui on se rend compte, on se dit « Ah ouais, je suis tombé dans le panneau. » C'est pas volontaire, c'était pas malicieux. C'est simplement le courant du monde. On fait comme tout le monde. On se dit « Oh, il n'y a pas de conséquences. » Mais on a l'impression que nos paroles sont comme des petits trucs qui font, on les parle et pouf, comme des boyers, comme les petites bulles qu'on fait. Et les petites bulles, elles font pouf, pouf, quand en réalité nos paroles sont comme des contenus, des vases qui contiennent des choses, la vie ou la mort. Proverbe 18:21. La mort et la vie sont en la puissance de ta bouche. Ça veut dire que nous tous et nous toutes ici. Vous voyez, moi j'ai dû faire le compte rendu. Je ne suis pas en train de partager quelque chose que je ne me suis pas, que je n'ai pas été convaincue, même, comment on pourrait dire. Si on se trouve dans cette situation, on se rend compte que notre parole, quelque part, a perdu son intégrité. Et il y a différents niveaux, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut le récupérer. Par la grâce de Dieu, on peut prendre une décision en disant, Seigneur, maintenant je comprends la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et on peut dire, Seigneur, aujourd'hui, je comprends, je prends une décision. Et dès qu'on prend une décision, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, qui est la puissance de Dieu, peut nous permettre, nous aider à obéir cette parole, à marcher selon cette parole. Donc cet après-midi, si vous vous rendez compte que vous avez besoin de tenir votre langue en bride, vous avez besoin peut-être de faire un petit changement, une petite déviation. Amen. Pour certains, ça va être « je dois m'arrêter de mentir ». Pour quelqu'un d'autre, ça va être « je vais tenir mes promesses ». Pour quelqu'un d'autre, je vais m'arrêter d'exagérer la vérité, car la vérité, c'est suffisant. Pour un autre, ça va être… Bref, il y a différents niveaux, mais l'important… c'est que maintenant, tout de suite, ensemble, on mette les comptes à rebours et le point à zéro. Si vous dites, j'ai besoin de faire cela, levez-vous. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Et je vais vous demander de répéter cette prière. Mais ne le faites pas comme... Faites-le de votre cœur, en vraiment prenant conscience de la chose pour laquelle vous priez. Parce qu'il y a quelque chose de puissant en Dieu. Philippiens 2, 12 et 13 nous dit qu'on est appelé à travailler à notre sanctification, notre séparation avec crainte. C'est-à-dire avec, en se disant, on ne joue pas un jeu avec Dieu. Il dit, car c'est l'Esprit en toi qui te donnera le vouloir et le pouvoir, le faire. Ça veut dire qu'à partir du moment... il y a eu peut-être cette prise de conscience où c'est le Saint-Esprit qui te donne le vouloir. C'est pour ça que tu te lèves. Tu as dit, ouais, je veux changer. Merci Saint-Esprit, tu m'as dévoilé, tu m'as montré quelque chose. Mais voyez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand le Saint-Esprit te donne le vouloir, il te donne le pouvoir. C'est-à-dire cette puissance, une puissance surnaturelle pour faire et accomplir ce que tu as voulu. Ça veut dire qu'à partir du moment après la prière, dans les jours qui suivent, certains peut-être dans les heures qui suivent, vous allez peut-être vous trouver tenté d'exagérer, tenté de mentir, tenté de briser une promesse, tenté de... Bref, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce va te rappeler ce moment-là, maintenant. Il va dire, tu te rappelles ce que tu as prié? Non. Et avec le vouloir, il y aura la grâce, la puissance pour exécuter, pour suivre, pour obéir, pour être ce genre de personne. Vous n'allez pas le faire par vos propres efforts, par votre propre volonté de faire. Non, c'est par le vouloir et le pouvoir, le faire du Saint-Esprit. Il œuvre en vous et avec vous. Mais ça commence avec un vouloir. Et je vous dis la vérité, si par exemple demain, après-demain ou je ne sais pas quand, tout d'un coup, vous faites une promesse et vous êtes tenté de briser cette promesse ou peut-être vous avez dit quelque chose comme vous le faisiez avant, exagéré ou menti. Tout d'un coup, le Saint-Esprit, tu viens de mentir, tu viens d'exagérer. Vous savez ce que vous devez faire? Vous arrêtez, aller vers la personne en disant, tu sais ce que je viens de te dire, ben, en fin de compte, j'ai exagéré, j'ai menti. Pardonne-moi. Je vous garantis que votre chair va être crucifiée et elle ne va pas vouloir refaire la même chose. Ça, c'est une façon sûre de pas tomber dans ce genre de panneau. Amen. On crucifie la chair Et la chair n'aime pas être crucifiée, elle ne va pas vouloir revenir là-dessus. C'est une bonne manière. Marchez avec le Saint-Esprit. Mettez votre main sur votre cœur. Répétez après moi de tout votre cœur. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta vérité. Merci pour ton intégrité. Seigneur, tu m'as créé en ton image. Tu m'as créé pour être une personne de puissance et d'intégrité. Alors aujourd'hui, pardonne-moi pour avoir menti, exagéré, brisé ma parole. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Et par le sang de Jésus, tout est effacé, enlevé, comme si ça n'a jamais existé. À partir d'aujourd'hui et de maintenant, je suis une personne d'intégrité. Saint-Esprit, je te remercie que tu me rappelles ce moment. Coach-moi, avertis-moi, corrige-moi, aide-moi à être cette personne, à marcher dans cette intégrité, dans tous les domaines de ma vie, afin que je sois une personne d'autorité et de puissance. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Donc pour être une personne d'autorité, nous grandissons en tant que personne d'intégrité. L'un va main à main avec l'autre. Et c'est bien. Alléluia. Donc, je voulais, on a vu l'importance de notre intégrité, que cette autorité s'exerce par la foi et qu'on protège notre autorité quand on protège notre intégrité. Alléluia. Mais je voudrais parler de quelque chose en particulier. Quand on parle d'autorité, il y a aussi quelque chose, un mot qui apparaît de temps en temps, qui s'appelle juridiction. Est-ce que quelqu'un sait ce que le mot juridiction veut dire? Est-ce qu'il y a une personne qui est familière avec la légalité des choses? Qu'est-ce que la juridiction? La juridiction, c'est un territoire dans lequel quelqu'un peut exercer l'autorité. Ça veut dire que vous et moi, quand on exerce notre autorité, nous devons savoir que nous avons une certaine juridiction. Quelle est notre juridiction? Ma maison, c'est ma juridiction. Mon ministère, c'est ma juridiction, c'est-à-dire l'endroit, le domaine dans lequel j'ai le droit légal d'exercer l'autorité. Qu'est-ce que ça implique? Que je peux aller chez toi, amen, je peux aller chez Dulcie, et chez Dulcie, je suis hors de ma juridiction. D'un côté normal, je ne peux pas aller chez Dulcie et tout d'un coup, je vais repeindre ses murs et changer ses meubles. Comprenez? Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans ma juridiction, c'est sa maison. De la même manière que je ne peux pas aller dans l'église de Pasteur Joe et de dire « Ah ben attends, on va remettre les choses en place, je vais tout changer dans ton ministère, dans ton église. » Je ne peux pas, parce que je suis hors de ma juridiction. Et même, vous venez de voir, j'ai demandé à Pasteur Joe les horaires. Pourquoi? Parce que je veux me soumettre à... Je suis dans sa juridiction ici, dans cette école. Ce n'est pas mon école, ce n'est pas mon ministère, c'est leur ministère, leur église, leur école, leur juridiction. Et je ne peux pas venir dans leur juridiction et commencer à faire des choses, à tout changer et à exercer l'autorité, à vous dire quoi faire, comment faire et tout faire. Je suis hors de ma juridiction. De la même manière que vous avez un policier qui est là à Montbéliard, mais si ce policier va à São Paulo au Brésil, oh, il est hors de sa juridiction. Ça veut dire qu'il est hors du territoire dans lequel il lui est permis d'exercer l'autorité. Le problème souvent, c'est que les chrétiens ne comprennent pas ce principe de juridiction. Ils font du n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Vous avez remarqué, c'est pour la raison pour laquelle, quand Jésus est allé dans la maison de Jaïrus, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était la petite fille de Jaïrus, un leader de la synagogue. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait du balayage, il a mis tout le monde dehors. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et il a invité les parents de la petite fille. Pourquoi ? Parce que Jésus n'allait pas exercer autorité avec une petite mineure sans l'autorisation et la bénédiction des parents qui avaient autorité sur l'enfant. Merci, c'est vrai. Voyez, l'autorité s'exerce dans notre juridiction. Donc dans ta maison, tu, papa, si vous avez des enfants, tu as plus d'autorité sur tes enfants que moi j'en ai. Par contre, si tu m'invites comme Jaïrus l'a fait avec Jésus, et tu m'invites dans ta maison pour prier pour tes enfants, alors j'exercerai mon autorité dans ta maison, mais par invitation. Voyez comment les choses fonctionnent. Ça veut dire qu'on n'a pas l'autorité sur la volonté et le territoire de quelqu'un d'autre. J'ai autorité, j'ai juridiction dans mon ministère, même dans ma maison, même dans ma ville, en tant que ministère apostolique dans ma ville, dans l'esprit, j'ai une certaine autorité. Parce que vous voyez, le royaume de Dieu est un royaume de l'égalité, mais d'autorité, avec certains échelons et certains niveaux d'autorité. Quand vous êtes dans votre église, votre pasteur, spirituellement, a une certaine juridiction, un droit d'exercer une certaine autorité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais nous n'avons pas d'autorité sur la volonté de quelqu'un d'autre. J'ai entendu, il s'est passé quelques fois, où d'une manière, dans l'ignorance, des personnes qui ont mis l'œil sur quelqu'un d'autre parce qu'elle était belle ou qu'elle lui plaisait, ou bref, qu'il était monsieur parfait. Et la personne a prié en disant, « Seigneur, voici mon mari. Je prie, j'exerce mon autorité, voici mon mari ou voici ma femme. J'exerce autorité par la foi, je reçois cette épouse. Par la foi, je reçois ce mari. » Ça marche pas comme ça parce que vous ne pouvez pas exercer autorité et changer la volonté de quelqu'un d'autre. Si Dieu peut pas le faire, encore moins nous. Parce que si Dieu pouvait changer la volonté de l'homme, bah tout le monde serait sauvé. C'est vrai, la Bible dit que Dieu ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. C'est son désir, c'est son souhait. Mais est-ce que Dieu peut le faire ? C'est silencieux dans cette église charismatique catholique. Vous voyez, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais parce que Dieu ne peut pas entraver la volonté de l'homme, cette volonté que Dieu a remise dans son amour à l'homme, il ne peut pas aller contre la volonté de l'homme. On doit vouloir, on doit donner, on doit recevoir Jésus. Bien sûr, il va toucher notre cœur, attirer notre attention, avec le Saint-Esprit, nous attirer vers le salut, nous envoyer des ouvriers pour attirer notre attention. Mais on est sauvé, comment ? Quand on choisit, quand on soumet notre volonté, qu'on dit « je choisis de recevoir Jésus ». Si Dieu ne peut pas entraver ce genre de juridiction et d'aller contre la volonté des hommes de cette manière, à combien forte raison pouvons-nous le faire ? Donc on doit comprendre quelle est ma juridiction, c'est-à-dire cet endroit dans lequel, cette zone ou cet endroit dans lequel je peux exercer mon autorité. Alléluia. Oh, aide-moi Seigneur. Je vais vous donner certains exemples si j'en trouve. La propriété des autres. Je ne peux pas exercer mon autorité sur la propriété des autres. Ça s'appelle, comment ça s'appelle ça en français ? L'envie, la convoitise. voyez, là, on ne peut pas exercer notre autorité pour convoiter la propriété de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle de la sorcellerie. Ou essayer de changer la volonté de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la sorcellerie. Ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est pour ça que souvent Jésus, vous avez remarqué, mais Jésus, le Fils de Dieu, demandait toujours à la personne, que veux-tu que je fasse pour toi ? Ou que ce soit fait selon ta foi. Il demandait toujours ce que la personne voulait. Et la volonté de la personne était impliquée afin que Jésus puisse exercer son autorité. Moi, je me rappelle, j'étais à Paris une fois, on m'a amené une petite fille qui avait été adoptée par un couple qui avait un cerveau qui était complètement chaotique. Elle avait une maladie, ça s'appelle méningite. Et son cerveau était complètement chaotique. Elle était courait à droite, à gauche, elle sautait. C'était un désordre complet. Et le papa est venu vers moi, il m'a demandé, il me dit, pourrais-tu prier pour ma fille ? Et j'étais sur le point de prier, et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit non. Demande au Père d'exercer son autorité sur sa fille, car il a beaucoup plus d'autorité sur elle que toi tu en as. J'ai dit, ah. Donc j'ai enseigné au papa, je lui ai dit, voilà comment. Et c'est intéressant, quand le papa a commencé, qu'est-ce qu'il a fait ? « Oh Père Céleste, s'il te plaît, guéris cette petite fille. » J'ai dit « Oh, arrête, non, c'est pas ça, exercer ton autorité. » J'ai dit « Tu parles à son cerveau, tu parles à cette petite fille, tu lui parles et tu parles à cette situation, à ce démon, à ce qui se passe là. » Et donc le papa a exercé son autorité. Et vous savez pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de faire cela ? Il dit « Parce que quand tu es parti, le papa doit savoir qu'il doit exercer autorité sur sa famille, car c'est son jardin d'Éden, c'est la demeure, le domaine sur lequel il a autorité, sa famille, sa femme. Marie, imposez les mains sur vos femmes et priez sur elles. Papa, imposez les mains sur vos enfants et priez sur eux. Maman, priez dans vos maisons pour amener une atmosphère de paix, imbibé par la présence de Dieu. C'est votre jardin d'Éden, c'est votre juridiction. N'allez pas vous occuper de la maison de votre voisine pour la remettre en ordre, non. Occupez-vous d'abord de votre maison, selon votre juridiction. Amen. On a vu la propriété des autres ou la volonté des autres. C'est pour ça que Jésus disait « Veux-tu être guéri ?» Je me rappelle une fois, j'étais dans mon église, qui est une grande église, et il y a une dame qui me connaît, qui vient vers moi, qui me dit « Audrey, la semaine prochaine, je vais avoir une chirurgie, je vais avoir une opération à cœur ouvert. » Elle me dit « Pourrais-tu prier pour moi ?» Savez-vous qu'immédiatement, vous savez qu'est-ce qui m'est venu immédiatement ? « Ah, elle veut être guérie avant d'avoir, comme ça, elle n'a pas l'opération. » C'est ce que j'ai pensé immédiatement. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a repris, il me dit, attends, mais demande-lui ce qu'elle veut. Demande-lui la chose pour laquelle, la chose qu'elle peut croire. Alors, je me suis arrêtée dans mon élan, et je lui dis, madame, je lui dis, ok, je suis ok de prier pour toi, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Elle me dit, ben, prie que j'ai une bonne chirurgie, et que j'en sorte, je récupère vite. Ah, vous voyez, chose différente. Moi, dans mon élan, j'aurais pu prier Seigneur, mais j'aurais été au-delà de sa volonté, au-delà de ma juridiction. Vous voyez, la juridiction, c'est la zone dans laquelle je peux exercer autorité parce que peut-être quelqu'un m'y invite. Quelqu'un m'invite, mais je ne peux pas aller au-delà de leur volonté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Levez la main si vous comprenez ce principe de juridiction. Parce que je vois beaucoup de chrétiens, beaucoup, bon c'est un grand mot, certains chrétiens qui vraiment presque sont dans la magie noire, si je peux dire ainsi, parce qu'ils essayent d'exercer leur foi sur la volonté ou le territoire des autres. Et Dieu, Jésus, n'est pas comme ça. Il demandait toujours « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Que ce soit fait selon ta foi. Ou alors, quand il allait prier pour quelqu'un, c'était quelqu'un qui l'invitait, quelqu'un qui lui demandait, ou si c'était pour un mineur, il était toujours sous l'autorité des parents. On voit le principe, si Jésus a agi de la même, comme cela, c'est un exemple pour nous à suivre. Vous comprenez ? C'est clair ? Ou est-ce que c'est trouble comme de l'eau de chaussette ? Alléluia. Prions en langue un petit peu. Pouvez-vous prier en langue avec moi ?
Oui.
Que nous avons vu l'importance de la juridiction, l'importance de nos paroles. Et, oh ouais, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais partager un témoignage qui va expliquer quelque chose de puissant. On a vu des choses qui empêchent votre autorité de fonctionner. On a vu l'intégrité de nos paroles et quelque chose de vraiment puissant. On a vu la foi, on doit apprendre à marcher par la foi, à savoir qu'en souterrain ou en sous-sol ou dans l'ombre ou dans le monde invisible, il se passe des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu, on doit en être convaincu et tenir ferme dans cela. On a vu l'importance de la juridiction. Mais j'aimerais revenir à un point où souvent notre autorité ne fonctionne pas parce que quelque part, même à notre insu, on a accepté un mensonge. Vous vous rappelez comment est-ce que Adam et Ève ont été vaincus ? Elle a écouté un mensonge, c'était la tactique du diable dès le début. C'était l'animal le plus rusé. Il travaillait, il œuvrait par manipulation, par mensonge, intimidation, c'est sa manière d'opérer. Parce que Jésus nous a dit qu'il n'a plus d'autorité, zéro autorité, mais il a le pouvoir d'intimider, le pouvoir de mentir, le pouvoir de faire, de voler, oui, de faire peur, de mentir. C'est un de ses outils, le mensonge, l'intimidation. Et c'est un de ses outils numéro un. Et vous voyez, ces formules, ces méthodes n'ont pas changé. Et souvent, ce qui se passe, un chrétien peut être exercé. Levez-vous, j'ai l'impression que tout le monde est en train. Je ressens comme un quelque chose qui pèse. Levons-nous, bougeons, alléluia, crions un grand cri de joie, alléluia, 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 amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc on a vu que le mensonge, la manipulation, l'intimidation sont les méthodes numéro une de l'ennemi. Et que l'on est fort quand on marche dans la révélation, une révélation qui vient de ce que l'on entend. On est fort quand on est en intimité avec Dieu. On est fort quand on est dans la vérité. On est fort quand on est des personnes dans la parole. Et je ne parle pas de la parole intellectuelle, je parle d'une parole qui vit en nous. Une parole dans laquelle nous marchons dans notre vie. Et j'aimerais partager un témoignage. Et j'ai, pour vous dire la vérité, dans mon ministère, j'ai aucune honte de partager avec vous ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est puissant, mais aussi les fautes, les erreurs. Parce que c'est au travers de ces fautes et de ces erreurs qu'on apprend. Amen. C'est au travers des fautes et des erreurs. C'est pour ça que dans la Bible nous montre que les erreurs de certains ont été inscrites pour notre enseignement, notre correction, pour nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Et alors, l'histoire que j'aimerais partager avec vous, j'étais en route pour aller en Éthiopie. Et si vous connaissez quoi que ce soit au sujet de mon ministère, j'avais l'habitude avant d'aller en francophonie, de passer la plupart de mon temps dans la fenêtre 10-40, qui est une fenêtre invisible, 10 degrés et 40 degrés latitude, où tous les pays non atteints, les chrétiens persécutés et les églises souterraines, c'est la zone principale. Donc c'était là où je passais la plupart de mon temps. Donc j'allais en Birmanie, en Indonésie, en Inde, au Népal, et puis cette fois-ci j'allais en Éthiopie. Et alors, vous savez, en tant que missionnaire qui a l'habitude d'aller dans ces zones dangereuses, j'avais toujours cette prise de conscience qu'un jour peut-être je pourrais être tué pour l'Évangile. Parce que exactement, surtout pendant ce temps en Éthiopie, il y a eu des instabilités au Soudan. Il y avait des instabilités dans le pays d'Érythréa où les chrétiens étaient persécutés. Il y a eu tout un tas de meurtres et de persécutions et qui se sont passés. Donc pour moi, c'était une réalité dans laquelle j'étais consciente et que j'avais acceptée. Je me suis dit, si un jour on me met un fusil à la tête ou un couteau sous la gorge pour me demander de renoncer à Jésus, je me dis, Audrey, qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu? Donc, c'était une décision à laquelle j'avais pensé, une décision que j'avais prise en me disant, je sais que ça fait partie de mon territoire, je sais que c'est un danger que peut-être un jour, à laquelle je vais faire face. Et c'était une décision. Bien sûr, on ne sait jamais comment on réagit. Mais, voyez, comme Daniel, qui était un jeune homme en Babylone, qui avait, même à l'avant, il avait pris cette décision dans son cœur qu'il n'allait pas se souiller. Et donc j'avais pris cette décision dans mon cœur que Seigneur, je suis prête à aller dans ces zones dangereuses, je suis prête même à mourir pour l'Évangile si c'est le cas. Donc j'avais pris cette décision et ce jour-là, je pars pour l'Éthiopie. Et je savais qu'il y avait eu des instabilités avec le Soudan, avec l'Érythréa, qu'il y a eu des chrétiens qui avaient été persécutés. Donc je vais en sachant cela. Et je suis à l'aéroport. Et tout d'un coup, mon mari m'amène tout le temps. On est là près de la sécurité. Et j'entends cette voix qui me dit, dis au revoir à ton mari, c'est la dernière fois que tu le vois. Et cette voix n'était pas méchante. Elle était douce et gentille. Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il va se passer quelque chose. Et bien sûr, je n'en ai pas parlé à mon mari. Mais j'avais un petit peu une boule à la gorge, je dois dire. Mais je suis partie, je suis montée dans l'avion et je suis arrivée en Éthiopie en me demandant, posant la question, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Dans les semaines qui ont suivi, tout d'un coup, j'ai été attaquée mortellement dans mon corps. Quelque chose de complètement fou où tout d'un coup, j'étais attaquée avec une fièvre tellement forte que j'hallucinais. Je voyais des bestioles qui grimpaient les murs. Et tout d'un coup, j'avais une fièvre tellement forte que je délirais. J'avais tout d'un coup mes poumons qui ont commencé à s'enflammer, où je crachais du sang. Et là où j'étais, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas de médicaments, rien du tout. Bien sûr, je suis une femme de foi, je suis une femme de la parole, je connais mon autorité. Et alors, j'ai exercé mon autorité au nom de Jésus. J'ai parlé aux symptômes, j'ai parlé à mon corps, j'ai commandé à mon corps d'être guéri. Mais quelque part, en arrière-plan, il y avait cette parole qui revenait. Dis au revoir à ton mari, c'est la dernière fois que tu le vois. Il y avait comme ce truc-là qui suspendait au-dessus de ma tête en me disant, mais attends là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais mourir? Ça veut dire que je ne vais pas être guérie? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait ce trouble qui s'installait dans mon cœur, vous comprenez? Mais quelque part en moi, je suis une femme de la parole, alors je me relevais en disant, attends, non, je suis prête à mourir pour l'Évangile, ah mais non, je ne vais pas mourir de maladie, la maladie ce n'est pas la volonté de Dieu, alors je dis non, je me levais dans mon autorité, mais il se passait quelque chose. Dis au revoir à ton mari, c'est la dernière fois que tu le vois. Et donc je me suis tournée vers Dieu, je dis Seigneur, attends là, tu vas devoir, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai prié, j'ai dit, je ne comprends pas, j'étais un petit peu troublée, j'essayais de comprendre. Le lendemain, je me réveille avec un rêve. Et dans mon rêve, je me vois en train de marcher dans le ciel avec mon père et il me montrait les rues du ciel, la montagne, le temps, il montrait toutes les belles choses au ciel. Et c'était bon, c'était paisible, c'était ah. Et je me réveille, je me dis alors là, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que je dois accepter, que je dois arrêter de résister, que je dois arrêter de résister, que je dois simplement accepter la chose parce que tu m'as dit que c'est la dernière fois que j'allais voir mon mari. Alors là, il y avait ce, d'un côté, j'ai ce rêve et cette parole, de l'autre côté, ma connaissance de la parole, je dis, attends, je n'ai pas peur de mourir, mais pas malade. Pour l'évangile, peut-être, mais pas malade. La maladie, là, non. Et j'avais, ça valait comme ça. Le lendemain, je me réveille, un autre rêve. Là, maintenant, je suis au ciel avec un homme spirituel qui est comme un père spirituel et il est en train de me montrer les rues dans le ciel, les rues d'or, le trône, il me montre tout, il y avait de la joie. Et puis il me dit, oh voilà, ça va être ta maison. Et puis je vois, puis il y avait de la paix, de la joie, c'était super. Et je me réveille. Je dis, Seigneur, ta parole dit que de la bouche de deux ou trois témoignages, que la vérité soit établie. Je dis, Seigneur, là, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que je dois arrêter de résister? Que je dois accepter cette maladie? Parce que c'est comme ça que je dois... Attends, je dis là, Seigneur, il y avait la confusion, je me dis, mais toujours la parole qui revient. Seigneur, tu as dit, avec une longue vie, tu allais me satisfaire et me montrer des longs jours. Seigneur, si je n'ai pas peur de mourir, mais pas malade. Vous voyez, voyez ce combat entre ces deux rêves, cette parole que j'ai entendue, qui avait l'air presque d'être audible, et puis la parole de Dieu. Et ça faisait comme ça. Et finalement, je me suis tournée vers le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Ça amène du trouble et mon autorité ne fonctionne pas. Et si mon autorité ne fonctionne pas, alors Saint-Esprit, guide-moi vers toute la vérité. Une prière toute simple. Et le lendemain, nous avons un moment à l'école qui s'appelle Chapel. C'est un moment où les étudiants partagent des témoignages, partagent des questions, ou bref. Et pendant ce temps, il y a une des étudiantes qui vient et qui dit « Ah, avant que j'aille à l'école, je ne connaissais pas trop la parole. » Et elle dit « Un jour, j'étais tombée malade, mais vraiment malade, et j'ai eu deux rêves. Un rêve où je me suis vue avec mon père au ciel, qui marchait au ciel. Et j'ai eu un deuxième rêve où je voyais mon père spirituel alors qu'on marchait au ciel. Et je ne comprenais pas que peut-être je devais accepter l'amener, mais j'ai été vers mon pasteur et je lui ai raconté tout ça. Et mon pasteur a eu une parole, il a dit non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et il a exercé, et puis elle a été complètement guérie. Et quand elle a dit cela, tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Audrey, n'as-tu pas lu que la Bible dit que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière? Et là, tout d'un coup, je vous dis la vérité, en moins d'une minute, alors que j'ai entendu le Saint-Esprit me révéler, j'ai commandé exercer mon autorité alors que pendant des jours et des semaines, elle ne fonctionnait pas. Immédiatement, quand j'ai su la vérité, j'ai exercé l'autorité, la maladie est partie instantanément. Pourquoi je raconte cela? Parce que des fois, on exerce notre autorité. Et si on sait que notre parole a toute intégrité, on sait que ce n'est pas un problème. Si on est une personne, on marche par la foi, alléluia. Mais si notre autorité ne semble pas fonctionner, ce n'est pas parce que Dieu, quelque part, ne veut pas accomplir et relâcher sa puissance, c'est que quelque part entre vos deux oreilles, il y a un mensonge qui s'est installé. Et ce n'est pas forcément un gros mensonge. Ça peut être peut-être un mensonge qui se déguise comme un ange de lumière, un petit mensonge qui s'est infiltré, qui neutralise l'autorité et la puissance de Dieu. Alors au lieu de frapper et de crier plus fort et de prier plus fort, pourquoi on doit se tourner vers Dieu en disant, Seigneur, s'il y a un mensonge quelque part, que je ne vois pas, que je ne comprends pas, dévoile, éclaire, montre-moi le mensonge. Vous savez, quand j'ai commencé dans le ministère de la guérison, avant que je commence dans le ministère de la guérison, Je savais d'une manière théologique que je devais faire les œuvres de Jésus. Je savais que j'étais appelée à exercer autorité, à imposer les mains sur les malades. Je savais tout ça. Mais pour une raison, pour une autre, je ne voyais pas. Je ne voyais pas la puissance relâchée. Je ne voyais pas les guérisons, les miracles. Et j'étais trop... J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Merci Seigneur, j'avais assez de jugeote où j'ai dit, Seigneur, je sais que si je ne vois pas la puissance dans mon ministère, c'est que quelque part, j'ai cru ou écouté un mensonge. Seigneur, dévoile-moi le mensonge. Expose la chose. Et en l'époque de peut-être, qu'est-ce que je dois dire, quelques mois, le Seigneur a commencé à me montrer des choses où je me rappelle où j'ai vu, j'avais ce petit mensonge que je devais avoir une onction spéciale pour guérir les malades. Parce que l'homme sous lequel j'ai grandi a eu, comme j'ai dit, des apparitions. Jésus lui est apparu. Jésus lui a dit, lui a mis les mains, lui a des doigts sur ses mains. Il lui a dit, je te donne une onction spéciale pour guérir les malades. Il a senti le feu de Dieu dans ses mains. Et il avait cette onction spéciale. Mais vous savez, pour moi, comment ça a été traduit ? Ben lui, il voit des guérisons et des miracles parce qu'il a une onction spéciale. Mais moi, ben, Jésus ne m'est pas apparu. Il n'a pas mis ses doigts dans mes mains. Ben, sans m'en rendre compte, je me disqualifiais en acceptant ce petit mensonge. Jusqu'à ce que je vois un ami maintenant qui est un ami à moi, un ministère puissant, qui est avec cet accent du Texas, qui dit « Moi, je n'ai pas d'onction spéciale, j'ai juste l'onction du Saint-Esprit. » Et à la fin de ces réunions, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a délogé ce mensonge. Ou tout d'un coup, ça a remplacé ce mensonge. Je me suis dit « Attends là, si lui, avec une onction spéciale du Saint-Esprit, il peut faire des miracles, alors moi aussi. » À ce moment-là, parce que j'ai délogé le mensonge, quelques jours plus tard, j'étais en Birmanie et il y avait un élève qui était complètement sourd d'une oreille. Il est venu vers moi, j'ai simplement mis mes doigts dans ses oreilles, j'ai commandé à ses oreilles de s'ouvrir. Pouf ! Vous voyez, j'étais la même personne. C'était juste quelques semaines plus tard, mais qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais délogé un mensonge. J'aimerais avoir deux personnes, vous deux, venez. Je vais vous montrer quelque chose, parce que vous tous, vous êtes appelés à guérir les malades, à exercer autorité, à relâcher la puissance de Dieu. Et voyez, nous avons ces deux belles personnes, séparez-vous un peu, ouais, désolé, c'est la seule fois où je me mets entre un mari et une femme. Faites face, regardez-les. Voyez, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:23 que Dieu va nous préserver tout entier, esprit, âme et corps jusqu'au jour de l'avènement. Ce qui nous révèle que chacun d'entre nous, nous sommes un être en trois dimensions. Nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme. Et cette âme, c'est quoi ? C'est l'intellect, les émotions, la volonté, la conscience. Et nous avons un esprit. Et le jour où nous acceptons Jésus, la Bible dit en Corinthiens que nous sommes maintenant une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Question, quelle est la partie de vous qui est une nouvelle création, qui est née de nouveau ? C'est l'esprit, n'est-ce pas ? Mais votre chair est la même. Je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, je venais juste d'accepter Jésus. Je me rappelle aller au lit, j'avais toujours des problèmes de poids. Je vais au lit en disant « Seigneur, je vais me réveiller, je vais avoir 30 kilos de moins ». Le lendemain, je me suis réveillée, j'étais la même dans mon corps. Et je me suis aperçue que c'était mon esprit qui était une nouvelle création. Et notre corps est le même, et notre âme, émotion, volonté, conscience, intellect. Qu'est-ce qui se passe, mes amis ? La Bible nous dit, dans Romains 8, verset 11, que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous, et va vivifier votre corps mortel. La puissance du Saint-Esprit que l'on reçoit pendant le baptême du Saint-Esprit, elle va demeurer où ? Dans notre corps, dans notre âme ou dans notre esprit ? Dans votre esprit. Le vrai vous, c'est votre esprit. 1 Jean 4, 17 dit que tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde, dans notre esprit. Nous sommes identiques à Jésus. Dans notre esprit, nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits, nous sommes une nouvelle création. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la puissance de résurrection demeure dans votre esprit. Mais si votre corps est malade, ou si le corps de quelqu'un d'autre a besoin de guérison, madame, venez. Peut-être madame a besoin de guérison. Alors mettez-vous là. Ici devant. Tournez-vous. Voilà. Alors nous voilà, cette nouvelle création. Esprit, âme et corps. Nous sommes une nouvelle création. La puissance du Saint-Esprit est là dans notre esprit. Mais quelle est la partie de nous qui va imposer les mains sur les malades? Votre esprit? Votre âme ou votre corps? C'est le corps qui impose les mains sur les malades. Mais la puissance, elle est où? Dans l'esprit. Et entre l'esprit et la main, qu'est-ce qu'il y a? Votre âme, votre façon de penser, de choisir, votre conscience, votre volonté, vos émotions. Et voyez, si votre âme, c'est pour ça que dans Romains, 12, verset 2, nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice et d'être transformé comment par le renouvellement de notre âme, que nous puissions voir, connaître, éprouver la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite, agréable. Parce que si dans votre façon de penser, vous pensez d'une mauvaise manière, vous choisissez d'une mauvaise manière, voilà, si vous avez comme dans mon cas un petit mensonge qui s'est logé là-dedans, votre esprit, la puissance est là. Votre corps a besoin de guérison ou le corps de madame a besoin de guérison. Et la puissance est là. Et s'il y a un mensonge, qu'est-ce que ça va faire? Ça va fermer le robinet. Et la puissance est là et ça va faire. Et la puissance veut passer, mais elle ne peut pas parce qu'il y a le mensonge. Et ça arrête. Mais dès qu'on renouvelle notre âme avec la parole, la volonté de Dieu, c'est comme si on ouvrait un robinet. Et tout d'un coup, on a besoin de guérison. La puissance, elle vivifie notre corps. On veut guérir les autres, elle va dans le corps de la personne quand on exerce autorité. Merci, messieurs, mesdames.